Chapitre 9. Revirement. Vivacia était en ébullition. Yema avait l'impression d'être en présence d'une marmite qui menaçait sans cesse de déborder et d'ébouillanter tout le monde. Le pire, c'était qu'il ne pouvait rien faire. Non seulement elle refusait de se calmer, mais elle repoussait obstinément toute tentative d'apaisement. Cet état de choses durait depuis près d'un mois maintenant. Yema sentait en elle le désir de vengeance d'un enfant contrarié. Vivacia était résolue à faire ses preuves, et pas seulement aux yeux de Kenith. Son enthousiasme plein de défis englobait Yema. Depuis qu'Opalin était mort sur son pont, sa détermination s'était accrue et renforcée. Elle deviendrait pirate. Plus le garçon essayait de l'en dissuader, plus elle s'entêtait. Le plus troublant était qu'elle s'éloignait de lui, chaque jour davantage. Elle mettait tant d'énergie à se tendre vers Kenith qu'elle abandonnait Yema à lui-même. Le pirate percevait son émoi. Il était tout à fait conscient des sentiments qu'il avait suscités en elle. Il ne la négligeait pas. Il lui parlait avec douceur, la traitait avec toute la courtoisie du monde. Mais il ne lui faisait plus la cour. Il avait tourné sa face rayonnante vers Eta, et sous la lumière de son regard, la jeune femme s'était magnifiquement épanouie. Comme une étincelle enflamme l'amadou, il l'avait embrasée. Elle arpentait les ponts comme une tigresse en chasse et toutes les têtes se tournaient pour la voir passer. Il y avait plusieurs femmes à bord. Kenith avait autorisé quelques esclaves affranchis à rester, mais, en comparaison d'état, elle faisait pâle figure. Ce qui intriguait Yema, c'est qu'il ne pouvait définir précisément ce qui avait changé en elle. Elle s'habillait comme avant. Bien que Kenith lui eût offert des bijoux, elle portait rarement autre chose qu'un petit rubis à l'oreille. C'était comme si on avait nettoyé de ses cendres un charbon ardent. Elle n'avait pas cessé de fréquenter le pont. Elle continuait à s'envoler dans le gréement avec une vélocité féline. Elle continuait à parler et à plaisanter avec les hommes, tandis que son aiguille à voile étincelait au soleil. Sa langue était toujours aussi acérée, son humour aussi mordant. Pourtant, quand elle regardait Kenith, même depuis le pont, la vie en elle semblait foisonner. Quant au capitaine, la splendeur d'état paraissait faire ses délices. Il ne pouvait passer près d'elle sans la toucher. Même le peu bégueul Sorcor rougissait presque en les voyant ensemble sur le pont. Yema les observait avec étonnement et envie. À son grand dépit, chaque fois que Kenith le surprenait à les regarder, il haussait le sourcil ou il lui faisait un clin d'œil. L'équipage tout entier réagit à ce nouveau stimulant. Yema se serait attendu qu'il exprimât jalousie ou insatisfaction à l'égard du capitaine exhibant sa dame, mais, au contraire, les matelots étaient fiers de lui, comme si sa virilité et la possession d'une femme désirable leur faisaient honneur à tous. Le moral des troupes avait monté en flèche. Les nouveaux membres d'équipage se mélangeaient sans heurts aux anciens. Tout mécontentement que les esclaves affranchis auraient pu ressentir s'était évaporé. Pourquoi réclamer la propriété d'un navire quand on pouvait faire partie de l'équipage de Kenith? Vivacia avait été témoin de trois autres prises depuis la mort d'Opalin. Chaque fois, il s'agissait de petits vaisseaux cargo et non de transport d'esclaves. Yema connaissait le déroulement des opérations. Le chenal choisi par Kenith et son second convenait admirablement aux embuscades. Sorcor se cachait au sud. Il choisissait les bateaux et commençait la poursuite. Vivacia attendait à l'extrémité du chenal. Sa tâche consistait à précipiter le navire pour chasser sur les rochers. Une fois la proie échouée, les pirates de la Marietta allaient la dépouiller à leur guise. Les petits vaisseaux n'étaient pas suffisamment équipés ni défendus. Il fallait reconnaître au crédit de Kenith qu'il ne massacrait pas les équipages. On versait peu le sang car, une fois les bateaux échoués, la résistance mollissait. Il ne les retenait même pas pour les rançonner. Il se contentait de saisir le meilleur de leur cargaison et les laisser repartir en leur recommandant sévèrement de répandre le bruit que Kenith, des îles des pirates, ne tolérait aucun transport d'esclaves dans ses eaux. Il ne se donnait pas lui-même le titre de roi. Pas encore. Les trois navires avaient réussi vaille que vaille à prendre le large après leur rencontre. La nouvelle ne tarderait pas à se propager. Vivacia, tout ensemble, boudait et s'impatientait d'être tenu à l'écart de l'action. Comme un enfant que les adultes excluent de leur conversation, elle n'était plus invitée à discuter piraterie ou politique avec Kenneth. Il passait le plus clair de ses soirées sur la Marietta avec Sorcor et Eta. C'est là qu'ils élaboraient leur plan d'attaque et fêtaient leur victoire. Le pirate s'en revenait tard dans la nuit avec sa dame toujours parée des derniers cadeaux qu'il lui avait faits. Un peu éméché, il se retirait aussitôt dans leur chambre. Yémin soupçonnait qu'il s'agissait d'une manœuvre pour exciter la jalousie et la curiosité de la vive nef. Mais il ne le lui disait pas. Elle n'aurait pas accepté de l'entendre de sa bouche. Entre les prises, les pirates menaient une vie presque désœuvrée. Kenneth gardait son équipage occupé, mais il le nourrissait copieusement grâce aux vivres pillés et lui laissait du temps pour jouer et faire de la musique. Il faisait participer Yémin à ses loisirs et le convoquait souvent dans sa cabine. Les cartes, les dés, ce n'était pas pour Kenneth. Il défiait Yémin à des jeux de stratégie, non de hasard. Le garçon avait la pénible impression que le pirate le jaugeait. Souvent, bien avant la fin de ses longues après-midi, le jeu restait oublié sur la table tandis que Kenneth interrogeait Yémin sur la philosophie de ça. Le second navire qu'ils avaient pris transportait une bonne provision de livres. Le capitaine était un lecteur avide et partageait ses trésors avec le jeune garçon. Celui-ci ne pouvait nier l'agrément qu'il trouvait à ses intermèdes. Parfois, Eta assistait au jeu et à la discussion. Yémin en était venu à respecter sa vive intelligence, au moins égale à celle de Kenneth, quoique moins cultivée. Elle tenait bien sa place quand il parlait de généralité, mais lorsqu'ils abordaient les idées de tel philosophe en particulier, elle devenait taciturne puis finissait par se retirer. Un après-midi, alors que Yémin s'efforçait de l'inclure dans la discussion, il se heurta à la faille. Il voulut lui passer le livre dont il était question, mais elle le refusa.
« Je ne peux pas lire ça, alors ne te donne pas cette peine !»
avait-elle déclaré furieuse. Elle était penchée sur un banc derrière Kenneth et lui massait doucement les épaules pendant qu'il bavardait. Alors elle se leva brusquement et se dirigea vers la porte. Elle avait les mains sur le loquet quand la voix du pirate l'arrêta.
« Eta, reviens !»
Elle se tourna et lui fit face. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Yémin aperçut un éclair de défi passer dans ses yeux quand elle regarda Kenneth.
« Pourquoi ? Pour que je prenne la vraie mesure de mon ignorance ?»
Une crispation de colère tira le visage du pirate. Yémin le vit se dérider puis tendre la main vers elle.
« Parce que je le désire, » dit-il presque doucement.
Elle revint sur ses pas, mais jeta vers le livre un œil noir, comme s'il s'agissait d'un rival haï. Il le lui tendit.
« Tu devrais le lire. »«
Je ne peux pas. »«
Je voudrais que tu le lises. »
Elle serra les dents.
« Je ne sais pas lire !»
s'écria-t-elle enragée.
« Je n'ai jamais eu de maître ni de leçon, à moins que tu ne comptes les hommes qui m'ont appris le métier avant même que je sois une femme. Je ne suis pas comme toi, Kenneth. Je... »
« Tais-toi !»
aboya-t-il en lui tendant une nouvelle fois le livre.
« Prends-le !»
C'était un ordre. Elle le lui arracha des mains et le tint comme s'il s'agissait d'un sac d'ordures. Kenneth reporta son attention sur Yémin. Un très léger sourire jouait sur ses lèvres.
« Yémin va t'apprendre à lire. Faute de quoi, il te le lira lui-même. »
Il lança un coup d'œil à Eta.
Il n'aura pas d'autre travail à bord tant qu'il n'aura pas achevé celui-là. Peu m'importe le temps que cela prendra.
« L'équipage va se moquer de moi !»
protesta Eta.
« On ne rira pas longtemps, » fit-il en plissant les yeux. « Ce n'est pas commode de rire quand on a la langue coupée. »
Il inspira puis sourit.
« Et si tu désires que ces leçons restent privées, soit... » Tu peux utiliser cette cabine. Je veillerai à ce que tu aies suffisamment de temps à toi sans qu'on te dérange. »
Il gesticula vers les livres pillés, dissimulés dans la chambre.
« Tu as largement de quoi apprendre là-dedans. Poésie, histoire, philosophie. »
Il se pencha en avant, emprisonna la main d'Eta et la tira vers lui. De sa main libre, il lui repoussa les cheveux.
« Ne fais pas la têtue. Je désire que tu y prennes plaisir. »
Il décocha à Yéma un coup d'œil singulier, étincelant, presque comme s'il désirait s'assurer que le garçon les observait bien.
« J'espère que cela vous apportera à tous les deux beaucoup de plaisir et de connaissances. »
De ses lèvres, il effleura le visage d'Eta. Elle ferma les yeux à ce contact, mais Kenik, lui, avait les yeux grands ouverts, rivés sur Yéma.
Celui-ci était affreusement mal à l'aise. De façon équivoque, il se sentit inclus dans le baiser.
« Veuillez m'excuser, »
marmonna-t-il en se levant précipitamment. La voix de Kenik l'arrêta à la porte.
« Cela ne te dérange pas de lui apprendre, n'est-ce pas ?»
Ce n'était guère une question. Il tenait Eta serré contre lui et scrutait Yéma par-dessus sa tête baissée. Le garçon s'éclaircit la gorge.
« Pas du tout. »«
Bien. Veille à commencer au plus tôt. Aujourd'hui même, d'ailleurs. »
Alors que Yéma bredouillait une réponse, il entendit le cri désormais familier.
« Voilà en vue !»
Il soupira de soulagement. Un tonnerre de pas précipités résonna partout le navire.
« Sur le pont !»
aboya Kenith, et Yéma bondit avec gratitude pour obéir. Il se rua sur la porte et se mit à courir alors que le pirate cherchait toujours sa béquille.
« Ici ! Par ici !»
criait Vivacia à Yéma qui débouchait sur le gaillard d'avant. Elle n'avait guère besoin de montrer du doigt. Même à cette distance, le vent charriait l'infection d'un transport d'esclaves. Le navire qui tanguait sous leurs yeux était dans un état de crasse et de délabrement tel que Yéma n'en avait jamais vu. La coque luisait d'une substance collante, résidu des immondices jetés par-dessus bord. Il enfonçait manifestement beaucoup trop chargé. Son foc mal ravaudé se plissait dans le vent. Des jets d'eau sporadiques indiquaient que les pompes de cale fonctionnaient, probablement manœuvrées par des esclaves. Yéma songea vaguement aux efforts constants exigés pour maintenir à flot le bateau ballotté. Dans son sillage, on discernait de surcroît le V des serpents. Les répugnantes créatures semblaient sentir la panique qui régnait à bord, car elles levaient leurs grandes têtes à crinière et lorgnaient vers la Marietta. Elles étaient au moins une dizaine, leur corps écailleux miroitait au soleil. Yéma en eut la nausée. Vivacia se pencha, avide.
Son impatience était si grande, elle paraissait haler le navire. « Regarde-les, regarde-les filer !»
Ses doigts crochus, ses bras étirés se tendaient vers le bateau. Alors que l'équipage s'empressait de donner les voiles pour la poursuite, le vent tourna.
« C'est un transport d'esclaves. Kenith va tous les tuer ?»
dit Yéma à voix basse.
« Si tu l'aides à capturer ce navire, tout l'équipage va mourir !»
Elle lui lança un bref coup d'œil.
« Et si je ne l'aide pas, combien d'esclaves vont-ils mourir durant la traversée ?»
Elle reporta son regard sur leur proie et reprit d'une voix dure.
« Les hommes ne sont pas tous dignes de vivre, Yéma. Au moins, nous, nous sauvons des vies. Si le navire continue comme ça, personne, sauf miracle, ne réchappera du voyage. »
Yéma l'entendit à peine. Il observait incrédule le bateau qui commençait à s'éloigner de la Marietta. La distance entre les deux vaisseaux s'accroissait. Si le transport d'esclaves ne laissa pas échapper l'occasion, il ne négligea pas non plus la nouvelle menace que représentait la Vivacia. Le bateau surchargé se dirigeait vers le milieu du chenal. La Marietta était trop loin derrière pour l'acculer et la manœuvre en tenaille ne pouvait jouer. C'était incroyable, mais le bateau esclave allait s'en sortir. Kenith déposa sa béquille sur le gaillard d'avant et se hissa à la force des bras. Une fois sur le pont, il se releva et rajusta sa béquille sous l'aisselle. Eta n'était nulle part en vue. Il se dirigea laborieusement vers la lisse. Quand il les eut rejoints, il secoua la tête, déçu.
« Pauvre bougre ! Le bateau s'échappe ! Ils sont perdus, j'en ai peur !»
Il n'y aurait pas de massacre aujourd'hui. Yéma se sentit brièvement soulagé. Alors, Vivacia se mit à hurler. Un hurlement d'intense frustration. Au même instant, le navire prit de la vitesse. Chaque bordage, chaque voile se mirent soudain en ligne. Les cris de joie et les appels de l'équipage se déchaînèrent tandis que l'écart entre la vivacia et le bateau esclave se réduisait. La conscience de Yéma fut prise au piège comme un papillon dans une toile d'araignée.
« Madame !»
s'exclama Kenith enthousiaste. Il lui donnait sa bénédiction et Vivacia rayonna d'une satisfaction dont Yéma sentit la chaleur. Kenith aboyait des ordres. Derrière lui, il entendait le cliquetis des armes et les hâbleries des hommes qui s'apprêtaient à aller tuer leurs semblables. Des défis et des paris s'échangeaient tandis que le détachement d'abordage se préparait. On apporta sur le pont grappins et lignes alors que les archers se hâtaient de gagner leur poste dans le gréement. Vivacia ne faisait attention à personne. C'était sa poursuite, sa proie. Que lui importaient les hommes à son bord? Yéma prit vaguement conscience de son propre corps. Ses mains étaient crispées comme des serres sur la lisse de proue et le vent fouettait ses cheveux. Son moi insignifiant était étouffé par la vaste énergie de Vivacia. Comme dans un rêve, il vit grossir le bateau esclave. La puanteur s'intensifia et les hommes épouvantés couraient dans tous les sens sur les ponts. Il entendit les voix des pirates enflées tandis qu'on jetait les grappins, qu'on tirait les premières volées de flèches. Les hurlements des hommes atteints par les traits et le grondement sourd des esclaves terrifiés dans les cales résonnaient comme les cris lointains d'oiseaux de rivage. Il était beaucoup plus conscient de l'approche rapide de la Marietta qui gagnait sur eux. Elle menaçait de dérober sa proie à Vivacia. La vive nef ne le souffrirait pas. Elle se pencha et empoigna le bateau esclave tandis qu'on tendait les lignes. Ses doigts se refermèrent sur le vide, mais l'avidité de sa figure terrifia l'équipage ennemi.
« Su donc !»
criait-elle comme une folle, sans écouter les ordres que Kenith s'acharnait à donner. Sa soif effrénée de sang était contagieuse. Dès que l'écart entre les navires fut assez réduit pour permettre de sauter, le détachement d'abordage s'ébranla.
« Bravo ! Bravo la beauté ! Ah, Vivacia ! Jamais je n'aurais cru que tu pouvais aller si vite, que tu étais aussi douée !»
Kenith la couvrait de louanges. Une vague de pure adoration destinée à Kenith balaya Yéma. L'émotion de la vive nef submergea totalement la peur qu'il ressentait à ce qui allait suivre, maintenant que le bateau esclave était pris. La figure de proue se retourna vers Kenith. Le regard d'admiration qu'ils échangèrent était celui de deux prédateurs qui se reconnaissaient.
« Nous allons bien chasser à nous deux !»
déclara Vivacia.
« Et comment ?»
renchérit Kenith. Yéma eut l'impression de partir à la dérive. Il était lié à eux, mais il l'ignorait. Il n'avait aucune part dans leur mutuelle révélation. Il les sentait communiquer à un niveau profond, plus élémentaire qu'il n'avait jamais atteint. Ils se sont reconnus, mais qu'ont-ils en commun ? Se demanda-t-il vaguement. Il ne perçut en lui aucun écho en réponse à sa question. À une coudée d'eux, il y avait un autre pont où des hommes luttaient pour leur vie. Le sang coulait à flot là-bas, mais ce qui coulait ici, entre la vive nef et le pirate, était plus épais encore que le sang.
« Yéma ! Yéma !»
Dans une sorte d'hébétude, le garçon entendit son nom et se retourna. Avec un sourire éclatant, Kenith montrait le navire capturé.
« Avec moi, mon gars !»
Sur les talons du pirate, il enjamba la lisse et se retrouva sur un pont inconnu où des hommes se battaient, juraient, hurlaient. Éta surgit soudain à leur côté, une lame dénudée à la main. Elle se déplaçait à grande foulée de panthères sur le qui-vive. Ses cheveux noirs luisaient au soleil comme un pelage lustré. Kenith lui-même brandissait un long poignard, mais Yéma était sans armes, les yeux écarquillés devant ce monde étrange. Son esprit s'éclaircit quelque peu puisqu'il avait laissé derrière lui le bois sorcier de Vivacia, mais le chaos dans lequel il était plongé l'engourdissait presque autant. Intrépide, Kenith parcourait le pont. Éta s'était placé à sa droite, près de sa béquille. Ils se faufilèrent dans la crasse et la puanteur, entre des hommes occupés à s'entretuer, et contournèrent un blessé recroquevillé dans une mare de sang. Il avait été transpercé par une flèche, mais c'était sa chute du haut du gréement qui l'avait le plus gravement atteint. La figure déformée par un rictus hideux de souffrance, il plissait les yeux comme s'il riait, tandis que le sang ruisselait de son oreille jusque dans sa barbe hirsute.
Sorcor arriva vers eux en bondissant. À l'évidence, une fois décidée, la Marietta les avait promptement rattrapés. Elle avait jeté le grappin sur l'autre bord. L'équipage, assailli des deux côtés, n'avait aucune chance.
Sorcor avait à la main une lame dégoûtante de sang et sa figure tatouée rayonnait de satisfaction féroce.
« On a presque fini par là, capitaine !»
dit-il avec jovialité.
« Encore quelques rescapés à la poupe, mais pas un seul qui se batte vraiment !»
Un hurlement sauvage ponctua ses paroles, suivi d'une gerbe d'éclaboussement.
« Et un de moins !»
commenta joyeusement Sorcor.
« Mes hommes sont en train d'ouvrir les panneaux de cale. Un vrai trou puant en bas. Je crois qu'il y a autant de cadavres enchaînés que de vivants. Il va falloir sortir les survivants rapidement. Serafio prend l'eau comme un marin pisse de la bière. »
Tu as assez de place pour les embarquer tous, Sorcor ?
Le robuste pirate remua les sourcils.
Probablement. Ça va faire du monde sur les deux navires, mais quand on aura rejoint le grincheux, on pourra lui en faire passer pas mal. Je dirais pourtant qu'on est à ras-bord.
Parfait,
fit Kenneth en hochant la tête presque distraitement.
On va à partage après avoir repris le grincheux au passage. Il est temps de faire savoir comment nous nous sommes débrouillés.
« Sûr !»
répondit Sorcor, hilar. Un pirate couvert de sang rejoignit le groupe en courant.
« Je vous demande bien pardon, messieurs, mais il y a le coq qui veut se rendre. Il s'est terré dans la coquerie. »«
Tue-le !»
répliqua Kenneth, agacé.
« Je vous demande bien pardon, capitaine, mais il dit qu'il sait quelque chose qui vaut la peine qu'on le laisse en vie. Il dit qu'il sait où est le trésor. »
Kenneth secoua la tête, dégoûté.
S'il sait où est le trésor, pourquoi n'est-il pas allé le chercher au lieu de traîner des esclaves sur ce rafio?
Le questionna Eta, sarcastique.
C'est pas madame,
dit le pirate en s'excusant.
C'est un vieux. Il lui manque un œil et une main. Il prétend qu'il était avec Ygrotte le téméraire. C'est ce qui nous a fait réfléchir, nous autres. On sait qu'Ygrotte a balancé la barge du gouverneur avec le trésor par le fond et qu'on l'a plus jamais revu.
Peut-être qu'il sait vraiment. « Je m'en charge, capitaine !»
promit Sorcor, irrité.
« Où est-il »
demanda-t-il au matelot.
« Attends un peu, Sorcor. Peut-être vais-je lui dire un mot à ce cuistot. »
Kenneth avait l'air à la fois intrigué et soupçonneux. Le jeune pirate parut soudain mal à l'aise.
« Il s'est terré dans la coquerie, capitaine. On a à moitié défoncé la porte, mais... il a tout un tas de couteaux et de hachoirs là-dedans, et il vise joliment bien quand il lance pour un vieux qui a qu'un œil. »
Yémin vit le visage de Kenneth se transformer.
« Je vais lui parler. Seul. Vous, faites sortir les esclaves des cales. Le bateau commence à prendre de la bande. »
Sorcor était habitué à recevoir des ordres. Il ne broncha pas, fit un bref signe de tête et tourna les talons. Il s'éloigna à grandes enjambées en aboyant. Yémin aperçut les esclaves groupés sur le pont, amorphes, clignant les yeux à la lumière du soleil. Crasseux, frissonnant dans l'air frais, ils paraissaient ahuris par le brusque changement. L'odeur et les visages hébétés le ramenèrent brutalement à la nuit où les esclaves avaient émergé des cales de la Vivacia. Il fut saisi d'une vague de pitié. Certains étaient si faibles qu'on devait les aider à se tenir debout. Ils continuaient à sortir des cales l'un après l'autre. Il les observa et comprit la justesse sublime des actes de Kenneth. Éradiquer cette détresse, c'était juste. Mais ses méthodes...
Yémin !
Une pointe d'agacement vibrait dans la voix d'Eta. Il restait là planté à regarder, alors que Kenneth, la mine résolue, traversait vivement le pont. La bande du navire était de plus en plus sensible, il n'y avait pas de temps à perdre, il s'empressa de les suivre. Alors qu'il traversait le pont, il entendit les rugissements des serpents suivis d'un bruit d'éclaboussure. Ils étaient en train de jeter les corps aux bêtes. Un murmure approbateur et des rires s'élevèrent dans les rangs des pirates, tandis que les serpents se disputaient la manne.
« Ça suffit !»
brailla Sorcor.
« Ils auront tout le temps de les avoir, les cadavres. Sortez-moi les esclaves des cales et faites-les passer sur les autres navires, et que ça saute. Il faut se débarrasser de cette épave au plus vite !»
La coquerie se trouvait dans le rouf. L'âme à nu, un groupe de pirates se tassait près de la porte. Ils ne remarquèrent pas l'arrivée de Kenneth. L'un donna un coup de pied dans la porte barricadée, ce qui provoqua une bordée d'injures de la part de l'homme retranché à l'intérieur. Une lame apparut par la petite fente.
« Je plante le premier qui essaie de rentrer. Allez me chercher votre capitaine. Je me rendrai à lui et à personne d'autre. »
Les pirates goguenards se rapprochèrent. On aurait dit une meute de chiens au pied d'un arbre où s'était réfugié un chat.
« Le voilà !»
annonça Kenneth d'une voix forte. Les rires se tuent tout d'un coup. Les pirates s'écartèrent de la porte en se bousculant et lui firent un passage.
« Filez à votre travail !»
ordonna Kenneth avec brusquerie.
« Je m'occupe de ça !»
Ils se dispersèrent rapidement mais à regret, avec force regard en arrière. La simple mention d'un trésor était déjà suffisamment alléchante, mais... le trésor dit grotte était légendaire. À l'évidence, ils auraient bien aimé rester pour savoir quel appât l'homme allait troquer contre sa peau. Kenneth leva sa béquille et cogna sur la porte.
« Sors de là !»
ordonna-t-il.
« C'est vous le capitaine ?»«
C'est moi. Montre-toi »
L'homme passa un œil par la porte puis se recula d'un bond hors de vue.
« J'ai quelque chose à vendre. Vous me laissez la vie et je vous dis où Ygrotte le téméraire a planqué son butin. Tout le butin. Pas seulement celui qui était sur la barge du trésor, mais tout ce qu'il a pris avant ça. »
« Personne ne sait où Ygrotte a caché son trésor, »
déclara Kenneth avec assurance.
« Il a sombré avec son équipage. Pas de survivants. Et s'il y avait eu un rescapé... « Voilà belle lurette qu'il aurait pillé le trésor !»
Avec une souplesse étonnante, Kenneth se coula furtivement juste à côté du chambranle.
« Eh bien moi, j'ai survécu. J'ai attendu des années pour y retourner le chercher. Mais j'ai jamais été en mesure. Chaque fois que j'en causais, tout ce que je récoltais, c'était un couteau dans le dos. Et c'est pas n'importe qui peut y aller le chercher. Faut un bateau spécial !» Un bateau comme celui que vous avez, le même qu'Ygrotte avait, et je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. Il y a des endroits où ce qu'une vive nef peut aller et personne peut la suivre. Mais bon, je vous en ai dit assez. Vous me laissez la vie et je vous conduis là-bas. Mais faut que vous me laissiez la vie.
Kenneth ne répondit pas. Un grand calme s'était fait en lui. Il restait immobile près de la porte. Yémin jeta un coup d'œil à Etta. Elle était aussi silencieuse et immobile que Kenneth. Elle attendait.
Hé, vous, capitaine, vous dites quoi? Marché conclu? C'est un sacré trésor, vous figurez pas. Des masses, et la moitié, c'est les trucs magiques de marchands de Terrilleville. « Vous pourriez aller direct le prendre. Vous serez l'homme le plus riche du monde. Vous avez qu'à dire que je peux vivre. »
Le coq paraissait jubilé.
« C'est un marché régulier, non ?»
Le bateau commençait à prendre une bande dangereuse. Sorcor et ses hommes pressaient les esclaves de se dépêcher. Une voix s'éleva soudain.
« Il est mort, femme, on peut plus rien faire, laisse-le !»
Un cri atroce flanta dans le vent, mais autour de la porte, tout était silencieux. Kenneth ne répondait pas au coq.
Hé, Cap, vous êtes toujours là?
Kenneth plissait les yeux pensivement. Une ombre de sourire jouait sur ses lèvres. Yémin eut un brusque frisson de crainte. Il était temps d'en finir et de quitter ce navire. Il prenait l'eau et s'alourdissait, la mer gagnait en puissance. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Etta lui décocha un violent coup de coude. Ce qui se passa ensuite se déroula simultanément. Yéma ne put qu'assister, les yeux ronds, en essayant de comprendre. Fût-ce la main de Kenith armée du couteau qui bougea en premier, ou perçut-il le mouvement de l'homme qui voulut jeter un œil par la porte? Les deux objets se heurtèrent de manière aussi rapide et synchrone que deux mains qui claquent. La lame de Kenith s'enfonça profondément dans l'œil encore valide de l'homme, puis ressortit. Le corps tomba en arrière, hors de vue.
« Il n'y a pas de survivant de l'équipage des grottes !»
affirma Kenith. Le souffle court, il regarda autour de lui, cligna les yeux comme s'il s'éveillait d'un rêve.
« Passez lambiné ! Ce bateau est en train de couler !»
s'exclama-t-il exaspéré. Le poignard sanglant toujours à la main, il s'éloigna à grands pas pour regagner la vivacia. Etta marchait à ses côtés. Elle n'avait pas l'air du tout démontée par ce qu'il venait de se passer. Yéma les suivit, privée de sentiments. Comment la mort pouvait-elle survenir avec cette rapidité? Comment la vie d'un homme pouvait-elle être réduite à zéro avec cette rapidité? Ce que Kenith avait fait avait fortement commotionné le garçon. Une extension de la main, et la mort s'était éclose. Pourtant, celui qui avait tenu le couteau n'avait rien éprouvé. Yéma se sentit comme entaillé. Il était associé à cet homme. Il eut soudain l'ardent désir d'être auprès de Vivacia. Elle l'aiderait à réfléchir là-dessus. Elle lui dirait qu'il n'avait aucune raison de se sentir coupable. La botte de Kenith n'avait pas plus tôt touché le pont de la Vivacia que la vive nef l'appela.
« Kenith ! Capitaine Kenith !»
Sa voix vibrait d'autorité et d'assurance et d'autres choses encore que Yéma ne reconnut pas. Kenith eut un sourire dur et satisfait.
« Installez les esclaves et coupez-moi les ponts avec ce sabot !»
ordonna-t-il brusquement, et avec un coup d'œil au garçon et à Etta.
« Veillez à les décrasser autant que possible. Gardez-les à l'arrière. »
Il se tourna et se dirigea rapidement vers la figure de proue.
Il veut être seul avec elle.
Etta énonça le fait avec une franchise brutale. La jalousie flamboyait dans ses yeux. Yéma baissa la tête vers le pont pour l'empêcher de lire la même chose sur son visage.
Pour un homme qui se cache, vous menez la grande vie.
Fit remarquer Althea en souriant. Grag eut un sourire hilar, fort content de lui. Il s'adossa à la petite chaise sur laquelle il était perché en se balançant sur deux pieds. Il tendit le bras pour donner un coup désinvolte à la lanterne en fer blanc suspendue à une branche d'arbre.
« Ce serait quoi la vie, sans la classe ? »
demanda-t-il avec emphase.
Ils éclatèrent de rire tous les deux.
La lanterne qui oscillait diffusait autour d'eux une lumière dansante, et la lueur des chandelles dessinait des formes mouvantes dans ses yeux noirs. Il portait une chemise de couleur foncée, ouverte au col, et d'amples culottes blanches. Quand il remuait la tête, sa boucle d'oreille en or s'allumait de chauds reflets. Hâlée par le soleil d'été, sa peau avait la teinte sombre de la forêt. Quand il souriait, ses dents blanches étincelaient brièvement, et on aurait dit le matelot jovial de Reims éteint. Il promenait son regard autour de la clairière devant la maisonnette et poussa un soupir quiet.
« Voilà des années que je n'étais pas venu ici. Quand j'étais petit, avant que je commence à naviguer avec papa, mère nous emmenait tous ici pour passer le plus chaud de l'été. »
Althea jeta un coup d'œil vers le jardinet. La maison n'était guère plus qu'une chaumière et la forêt gagnait presque jusqu'à la porte.
Il fait plus frais ici en été?
Un peu, pas beaucoup. Mais vous savez comme ça sent mauvais à Terrilville en été. Nous étions là quand la peste sanguine s'est déclarée. Personne n'a été atteint. Mère a toujours cru que c'était parce que nous avions évité les humeurs malignes de la cité cet été-là. Et après cela, elle a insisté pour nous y amener chaque année. Ils gardèrent tous deux le silence et tendirent l'oreille. Elle imagina la cabane et le jardin animé, habité par une femme et ses enfants. Althea se demanda, et ce n'était pas la première fois, quelle aurait été sa vie si ses frères avaient survécu à la peste sanguine. Son père l'aurait-il emmené naviguer? Serait-elle mariée à l'heure qu'il est, avec des enfants? « À quoi pensez-vous ? » interrogea Greg doucement. Il laissa retomber la chaise sur ses pieds, puis posa les coudes sur la table. Le menton dans les mains, il la regarda avec tendresse. Une bouteille de vin, deux verres et les restes d'un repas froid encombraient la table. Althea avait apporté les provisions. Le billet qu'elle avait reçu était en fait adressé à Ronica de la part de la mère de Greg. Celle-ci s'enquérait s'il serait possible qu'Althea rendît à la famille Ténira un service discret.
Kefria avait haussé les sourcils, mais peut-être Ronica avait-elle décidé qu'Althea n'avait plus de réputation à soutenir. Elle avait répondu en accordant son autorisation.
Un cheval attendait Althea dans une écurie de Terrilville. Elle s'était mise en chemin sans avoir une idée bien claire de sa destination. En passant devant une petite taverne dans les environs de la ville, un rôdeur l'avait appelé et lui avait remis un billet. Selon les instructions, elle devait se rendre à une auberge où elle pensait presque trouver Greg. Mais on lui donna un cheval frais et une cape d'homme à capuchon. Sa monture patientait avec des fontes chargées et un nouveau billet. Tout cela vous avait un air de mystère et d'aventure, mais Althea se gardait bien d'oublier qu'il s'agissait aussi d'une affaire grave. Depuis qu'Ophélie avait défié le ministre des taxes du gouverneur, Terrilville s'était divisée. La décision de faire partir au plus vite la Vive Nef avait été avisée, car trois autres vaisseaux de patrouille chalcédiens étaient arrivés peu de temps après. Cette arrivée, opportune, avait éveillé les soupçons sur les liens qui unissaient le ministère à Chalcède, liens dont l'étroitesse était peut-être même ignorée de Jamelia. Quelqu'un s'était introduit dans la résidence du ministre et avait massacré un couple de pigeons voyageurs. Les entrepôts qui avaient échappé au feu la nuit du conseil avaient été incendiés depuis, à deux reprises. Ce qui avait conduit les mercenaires chalcédiens à monter une garde de nuit dans la résidence du ministre ainsi qu'à patrouiller ostensiblement dans le port et les eaux avoisinantes. Certains premiers marchands qui s'étaient montrés au début plutôt conservateurs prêtait désormais une oreille plus complaisante à ceux qui évoquaient à mi-voix l'indépendance vis-à-vis de Jamelia. Greg Ténira était au centre des griefs que le ministre des Taxes entretenait contre Terrilville. Sa tête était mise à prix, avec une grosse récompense. Quand Brashen avait suggéré à Althea qu'en dénonçant Greg, elle récolterait suffisamment d'argent pour remettre à flot le parangon, il plaisantait mais n'exagérait nullement. Si Greg ne se mettait pas très bientôt à l'abri du danger, même ceux qui lui étaient fidèles pourraient être tentés par la prime qui montait en flèche. À présent, assise avec lui dans la douce brise du soir d'été, elle eut un mauvais pressentiment. Il fallait qu'il agisse, et vite. Elle lui en avait parlé et elle hasarda. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous attardez ici. Vous pourriez certainement vous faufiler sur une des vives nefs. Je m'étonne d'ailleurs que les agents du gouverneur ne vous aient pas déjà déniché. Tout le monde sait que votre famille possède une cabane dans la forêt de Sanger.
On le sait si bien qu'ils sont déjà venus fouiner ici à deux reprises, et ils peuvent revenir, mais ils trouveront la maison aussi vide et abandonnée que les autres fois.
Comment cela ? Demanda Althea intriguée. Greg se mit à rire sans gaieté.
Mon grand-oncle n'était pas d'une moralité irréprochable. D'après ce qu'on dit dans la famille, il avait ici des rendez-vous galants. C'est pourquoi non seulement il y a une cave à vin dissimulée derrière un faux mur, mais une petite chambre derrière. Et il y a une cloche de résonance très coûteuse installée à la pile du pont que vous avez franchi.
« Je n'ai rien entendu en traversant ?» protesta Althea.
« Bien sûr que non. » C'est une petite clochette, mais très sensible. Quand vous passez, la clochette d'ici tinte. Ça soit loué pour la magie du désert des pluies.
Il leva son verre pour porter un toast à leur frère du désert des pluies et Althea l'imita. Elle reposa son verre et ramena Greg à leur conversation.
« Alors vous avez l'intention de rester ici ?»
Il secoua la tête. « Non. Il me découvrirait un jour. On doit apporter des vivres. Les gens du coin savent que je suis là. La plupart des familles des trois navires. Ce sont de braves gens, mais pas riches. L'un d'eux finirait par céder à la tentation. Non, je pars, et très bientôt. C'est pourquoi j'ai supplié ma mère d'arranger cette visite. Je redoutais que votre famille ne vous l'interdise. Je sais qu'il n'est pas convenable de chercher à vous voir seul dans ces circonstances. Mais, aux grands mots, les grands remèdes. Il paraissait contrit. Althea renifla, amusée. Je ne crois pas que ma mère ait beaucoup réfléchi. Je crains bien que ma réputation de garçon manqué me soit restée, ce qui pour ma sœur serait scandaleux et naturel pour moi. Il tendit le bras et posa la main sur celle d'Althea, la serra, puis la garda. Est-ce mal si je vous dis que j'en suis ravi? Autrement, je ne vous aurais pas connu suffisamment pour vous aimer. L'aveu sans embâge la laissa sans voix. Elle se força à remuer les lèvres pour lui répondre qu'elle l'aimait aussi, mais le mensonge ne voulait pas sortir. Bizarre. Elle ignorait que c'était un mensonge avant d'avoir essayé de prononcer les mots. Elle ouvrit la bouche pour exprimer quelque chose de sincère, qu'elle en était venue à avoir beaucoup d'affection pour lui ou qu'elle était honorée de ses paroles. Mais il secoua la tête et la devança. Ne dites rien. Vous n'y êtes pas obligée, Althea. Je sais que vous ne m'aimez pas. Pas encore. À bien des égards, votre cœur est encore plus prudent que le mien. Je l'ai su depuis le début. Et même si je l'ignorais, Ophélie s'est donné beaucoup de mal pour m'avertir quand elle me conseillait sur la manière de vous faire la cour. Il eut un rire de dérision. Non, que j'ai sollicité ses conseils. Par bien des côtés, elle est pour moi une seconde mère. Elle n'attend pas que je lui demande son avis. Elle sourit avec reconnaissance. Je n'ai rien à vous reprocher, Greg. Vous n'avez rien fait qui m'ait déplu. La vie ne m'a pas laissé le loisir dernièrement de m'attarder sur des espoirs ou des rêves. Les soucis de ma famille pèsent lourdement sur moi. En l'absence d'hommes adultes, c'est à moi qu'incombent les devoirs. Personne d'autre ne peut aller rechercher la vivacia. Vous me l'avez déjà dit, concéda Greg d'une voix qui n'était pas dénuée de réticence. J'ai abandonné l'espoir que vous veniez avec moi maintenant. Je suppose que, même par ces temps troublés, ce serait considéré comme un mariage trop précipité pour être honnête. Il lui retourna la main et en caressa la paume avec son pouce. Elle fut parcourue d'un frisson de plaisir. Il baissa les yeux et demanda « Mais plus tard, les choses vont s'arranger. » Il réfléchit à ce qu'il venait de dire et eut un rire amer. « Ou empiré, peut-être. J'aimerais pouvoir me convaincre qu'avec le temps vous serez à mes côtés et vous ferez partie de ma famille. » Althea, voulez-vous m'épouser? Elle ferma les yeux, émue et peinée. C'était un homme bon, honnête et droit, beau, désirable et même riche. Je ne sais pas, répondit-elle à mi-voix. J'essaie de voir plus loin et d'imaginer un temps où ma vie m'appartiendra, où je pourrai prendre mes décisions. Mais je suis incapable de voir si loin. Si tout va bien, si je récupère la vivacia, j'aurai encore à me battre pour la disputer à Kyle. Si je l'obtiens, je naviguerai avec elle. Elle le regarda avec franchise. Nous avons déjà parlé de tout ça. Je sais que vous ne pouvez pas quitter Ophélie. Si vivacia revient en ma possession, je ne la quitterai pas non plus. Alors où cela nous mène-t-il? Il fit une moue désabusée. Vous ne m'encouragez guère à souhaiter votre succès, car si vous obtenez ce que vous désirez, je vous perds. En la voyant froncer les sourcils, il rit de bon cœur. Mais vous savez que je le souhaite. Néanmoins, si vous échouez, eh bien, je vous attendrai, avec Ophélie. Elle baissa les yeux et hocha la tête, mais dans son cœur, elle sentit un froid s'installer. Que signifierait échouer? Une existence entière s'en avira à elle. La Vivacia disparut à jamais de sa vie. La femme de Grag, passagère sur son navire à lui, qui surveillerait ses petits de crainte qu'ils ne passent par-dessus bord, voir ses fils grandir et partir en mer avec leur père, tandis qu'elle resterait à la maison, s'occuperait de son foyer et marierait ses filles. L'avenir lui parut soudain se resserrer en l'emprisonnant comme une nasse. Elle essaya de respirer, de se convaincre que sa vie ne ressemblerait pas à cela. Grag la connaissait. Il savait que son cœur était voué à la mer, pas à un foyer. Mais de même qu'il acceptait qu'elle accomplisse son devoir envers sa famille aujourd'hui, quand il serait marié, il attendrait d'elle qu'elle accomplisse son devoir envers lui. Pour quelle raison les marins prennent-ils femme? C'était bien pour avoir quelqu'un à la maison qui s'occupe de leur foyer et élève les enfants.
« Je ne peux pas être votre femme. » Stupéfaite, elle s'entendit prononcer ces paroles à voix haute. Elle se força à le regarder dans les yeux. « C'est ce qui m'empêche véritablement de vous aimer, Grag. Sachez que ce serait le prix à payer. Je pourrais vous aimer, ce ne serait pas difficile, mais je ne pourrais pas vivre dans votre ombre. »«
Dans mon ombre ?» demanda-t-il perplexe. « Je ne comprends pas, Althea.
Vous seriez ma femme, honorée par ma famille, la mère des héritiers Ténira. »
Il était sincèrement blessé. Il cherchait ses mots.
« Je ne peux offrir davantage. C'est tout ce que j'ai à donner à une femme, cela et moi-même. »
Sa voix baissa jusqu'au murmure.
« Je croyais que cela suffirait pour vous conquérir. »
Il ouvrit lentement la paume comme s'il relâchait un oiseau. À contre-cœur, elle retira sa main.
« Grag, aucun homme ne peut m'offrir davantage, ni mieux. »«
Pas même Brachentrell ?» demanda-t-il avec brusquerie d'une voix sourde. Un froid terrible saisit Althea. Il savait. Il savait qu'elle avait couché avec Trell. Elle fut contente d'être assise. Elle s'efforça de composer son visage en luttant contre le rugissement qui lui emplissait les oreilles. Ça, elle allait s'évanouir. C'était ridicule. Elle ne comprenait pas la violence de sa propre réaction. Il se leva subitement et s'éloigna un peu de la table, les yeux perdus dans la forêt obscure.
« Alors vous l'aimez ?»
Le ton était presque accusateur.
Le sentiment de culpabilité et la honte lui avaient asséché la bouche. « Je l'ignore, » parvint-elle à dire d'une voix rauque, puis elle toussota pour s'éclaircir la gorge. « C'est simplement quelque chose qui s'est passé entre nous. Nous avions bu tous les deux. La bière était droguée et... »«
Je sais tout cela, »
fit-il brutalement sans la regarder. « Ophélie m'a tout raconté quand elle m'a prévenu. Je n'ai pas voulu la croire. » Althea baissa la tête dans ses mains.
« Prévenu ?»
Le chagrin soudain l'engloutit. Elle douta qu'Ophélie l'ait jamais aimée.
« Depuis combien de temps êtes-vous au courant ? »
arriva-t-elle à articuler. Il poussa un profond soupir. La nuit où elle a insisté pour que je vous embrasse, elle me l'a dit plus tard. Je crois qu'elle s'est sentie, je ne sais pas, peut-être coupable. Elle a eu peur que je sois blessé si je tombais trop profondément amoureux de vous et que je découvre que vous n'étiez pas ce que j'attendais.
Et pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé avant ?
Elle leva la tête et surprit son haussement d'épaule. J'ai cru que cela n'avait pas d'importance. Cela m'a tracassé, bien sûr. Je voulais le tuer, le salaud. Quelle bassesse! Mais Ophélie m'a suggéré que vous aviez peut-être des sentiments pour lui, que peut-être vous étiez un peu amoureuse de lui. C'était une manière de question.
Je ne crois pas.
confia-t-elle à voix basse. Mais l'ambiguïté de sa réponse la surprit elle-même.
« Cela fait deux, »
fit-il remarquer amèrement.
« Vous savez que vous ne m'aimez pas, mais vous n'êtes pas sûr pour lui. »«
Je le connais depuis longtemps, » dit-elle piteusement. Elle voulait assurer qu'elle ne l'aimait pas. Mais comment peut-on être ami depuis si longtemps sans éprouver une certaine forme d'amour? Ce n'était pas si différent avec David Restart. Elle avait beau mépriser les actes du marchand, elle le considérait pourtant comme un gentil oncle radoteur. Trail a été mon ami pendant des années et mon compagnon de bord. Et ce qu'il s'est passé entre nous ne change rien à ces années-là.
Je ne comprends pas du tout,
continua Greg doucement d'une voix où perçait la colère.
Il vous a déshonoré, Althea. Il vous a compromise.
Quand je l'ai appris, j'ai été furieux. Je voulais le provoquer. J'étais sûr que vous le haïssiez. Je savais qu'il méritait de mourir. J'ai cru qu'il n'oserait jamais revenir à Terrilleville après ce qu'il avait fait. Quand il est rentré, j'ai voulu le tuer. Deux choses seulement m'ont retenu. Je ne pouvais le supprimer sans révéler les raisons pour lesquelles je le défiais. Je ne voulais pas vous faire honte. Et puis j'ai su qu'il était venu chez vous. J'ai cru qu'il allait peut-être vous faire une proposition honorable. Si vous aviez refusé, a-t-il proposé? C'est de cela qu'il s'agit. Vous vous sentez une sorte d'obligation envers lui? Il y avait du désespoir dans sa voix. Il s'acharnait à comprendre. Elle se leva et alla le rejoindre. Elle aussi contempla la forêt assombrie. Des ombres de branches et de troncs se mêlaient, s'éclipsaient.
« Il ne m'a pas violée, » dit-elle. « Je dois vous l'avouer. Ce qu'il s'est passé entre nous n'était pas raisonnable, mais ce n'était pas violent, et je suis autant à blâmer que Brashen. »«
C'est un homme. »
Il prononça ces paroles sur un ton implacable et croisa les bras.
« C'est lui qui est à blâmer. Il aurait dû vous protéger, non profiter de votre faiblesse. Un homme doit maîtriser son désir. Il aurait dû être plus fort. »
Elle resta muette de stupéfaction.
Était-ce réellement ainsi qu'il la voyait?
Comme un être faible et impuissant, une personne qui devait être guidée et protégée par l'homme qui venait à être le plus proche d'elle?
Croyait-il honnêtement qu'elle n'aurait pas pu arrêter Brashen si elle l'avait voulu? Elle sentit d'abord en elle une fêlure, puis la colère se mit à croître. Elle avait envie de le déchirer avec des mots, de lui faire comprendre au degré ou de force que c'était elle qui menait sa vie. Puis la colère s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue. C'était inutile. Elle vit sa liaison avec Brashen comme un événement personnel qui les concernait eux, et eux seuls. Greg considérait qu'elle avait subi un tort, qu'elle en avait été changée pour toujours. Le fait allait à l'encontre de tous les principes du jeune Ténira. La honte et le sentiment de culpabilité ressenti par Althea ne provenaient pas d'un préjudice qu'elle aurait subi, mais de la crainte que sa famille en subisse les conséquences si la chose venait à s'ébruiter. Les deux conceptions lui parurent radicalement différentes. Elle savait, avec une certitude nouvelle, profonde, qu'ils ne pourraient jamais rien construire ensemble. Même si elle avait pu renoncer à ses propres rêves, même si elle avait décidé tout à coup de vouloir un foyer des enfants, cette image d'elle-même, femme faible et sans défense, l'humilierait toujours. « Il faut que je m'en aille maintenant, » annonça-t-elle brusquement. « Il fait nuit, »
protesta-t-il. « Vous ne pouvez pas partir maintenant. »«
L'auberge n'est pas loin une fois que j'ai passé le pont. J'irai lentement et le cheval a l'air très calme. »
Il finit par se retourner et la regarder. Les yeux élargis, l'air vulnérable, il la supplia.
« Restez, je vous en prie, restez et parlons. Nous pouvons arriver à une solution. »«
Non, Greg, je ne crois pas. » Il y a une heure, elle aurait effleuré sa main. Elle l'aurait embrassée pour lui dire au revoir. Maintenant, elle savait qu'elle ne pourrait jamais franchir la barrière qui s'était élevée entre eux.
« Vous êtes bon. Vous trouverez une femme qui vous correspondra. Je vous souhaite tout le bonheur possible. »
Et quand vous verrez Ophélie, transmettez-lui aussi mes meilleurs vœux.
Il la suivit dans le cercle dansant de lumière que dessinaient les lanternes de fer blanc. Elle prit son verre et but une dernière gorgée de vin. Quand elle regarda autour d'elle, elle comprit qu'elle n'avait plus rien à faire ici. Elle était prête à partir.
Althea.
Elle se retourna au ton affligé de sa voix. Il avait l'air tout à coup si gamin, si jeune. Il la contempla bravement, droit dans les yeux, sans chercher à cacher son chagrin. La proposition tient toujours. J'attendrai votre retour. Soyez ma femme. Peu m'importe ce que vous avez fait. Je vous aime. Elle chercha à répondre avec sincérité.
Vous avez un noble cœur, Grag Tenira, dit-elle enfin. Adieu.